Bonsoir, bienvenue dans La Cour des Grands, l'émission francophone qui s'adresse aux parents, mais pas uniquement. Ici Estelle, heureuse d'être dans les studios de Choc FM avec une équipe de choc. Et je vais les laisser se présenter tout seuls.
Bonjour, moi c'est Diana, enseignante. Je vous promets de vous dire la vérité, rien que la vérité.
Bonsoir, moi c'est Serge et je serai le papa de la bande qui va vous donner tous les petits trucs pour gérer comme un chef le rôle de papa. Mes compétences ? J'ai 4 enfants.
Bonsoir, c'est Madigan et j'apporterai un peu de lumière à vos pensées.
Bonsoir et bienvenue dans la Cour des Grands. Vous êtes sur les ondes de Choc FM, la sœur de la radio communautaire de Toronto, 100% francophone. Et ce soir, on est avec Madigan. Comment
Bonsoir.
Ça va?
Bonsoir, ben, ça va toujours bien, en bonne compagnie, Serge.
C'est gentil, merci beaucoup Madigan, qui est, je répète, une enseignante en école élémentaire. Mm-hmm. Et qui va nous donner un petit peu ses lumières aujourd'hui, parce que les bulletins scolaires sont arrivés il y a un mois maintenant à peu près.
Ouais, un mois. Comme deux, trois semaines,
presque un mois, dans les familles, mi-février, effectivement. Puis, on voudrait en parler de l'occasion d'une expression qui revient tellement souvent maintenant dans ces bulletins scolaires, et peut-être démystifier ça pour certains termes, c'est l'autorégulation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Madigan, pour ceux qui ne sont pas du tout enseignants, qu'est-ce que c'est ce terme un peu extraterrestre ?
Alors, l'autorégulation, c'est vrai qu'on enseigne, on essaie de modéliser des petits, comme maternelle jardin, des habiletés de sociales, des habiletés qu'on doit avoir en salle de classe et vis-à-vis de leur apprentissage. Et chaque élève, en fonction de ça, peut de lui-même savoir quel est son défi à travailler pour s'améliorer, de s'approcher de plus de la norme en général. Et des fois, cette norme-là, on se la fixe ensemble avec le groupe classe, comme par exemple les règles de vie de la classe, quelles sont les stratégies de prise de parole qu'on doit appliquer pour le bien-être de l'ensemble du groupe. Et dépendamment du défi de chaque ami, chaque élève, il doit être capable de savoir, bon, mais moi, mon objectif du mois de février, c'est par exemple travailler ma prise de parole, parce que c'est vrai que je coupe tout le temps la parole aux amis, je ne respecte pas le tour de mes amis, ou bien pour moi, pour m'améliorer en lecture, je dois travailler ma fluidité, ou mais moi, pour m'améliorer avec, par exemple, la collaboration, c'est vrai que j'ai un peu des conflits, donc je dois trouver une solution pour travailler avec mes pairs et trouver des solutions pour faire partager mes idées.
Et tu dirais, c'est quoi la différence entre l'autodiscipline et l'autorégulation? Est-ce que c'est la même chose ou
J'utilise plus l'autorégulation dans le sens où peut-être le mot discipline. Qu'est-ce que tu entends toi d'abord par discipline?
Discipline, pour moi, autodiscipline, c'est effectivement l'enfant qui va faire attention aux règles de vie, qui va ne pas interrompre, qui va ne pas parler en classe pendant que la prof parle, qui va peut-être que c'était à mon époque la discipline et que maintenant c'est différent, je sais pas, mais
On emploie plus l'autorégulation et même dans le. En fait, moi, c'est le mot discipline.
Qui te dérange en fait. Oui. Là, c'est plus, ça englobe plus de l'apprentissage que plutôt de.
Oui, parce que même dans le sens de la, peut-être l'élève ou que tu vas dire qui dérange un peu ou tu vas dire ok, il faut le discipliner.
D'accord.
Quand il arrive avec l'autorégulation, il pourra de lui-même se prendre au niveau du comportement.
D'accord, ok.
Quand par exemple, moi, j'ai un élève, il sait très bien que si au bout de 3 reprises, je le reprends.
Tu le disciplines?
Non, je le reprends. Non, je vais dire, ok, je t'ai déjà demandé une fois, deux fois, trois fois. Il va savoir que la règle, c'est, il va prendre le sablier pendant 5 minutes et aller faire la lecture au maternel.
D'accord.
Donc, arrivé à la troisième fois, il le sait. Donc, de lui-même, il prend le sablier. Il va prendre le livre, même il demande, ah, qu'est-ce qui m'accompagne? Et de lui-même, il s'autorégule.
Ok. D'accord.
Donc, on n'a pas besoin de menaces ou autre, parce que du moment qu'on a les règles sont déjà préétablies et qu'il y a un consentement du groupe.
D'accord.
De lui-même, il sait que voici que c'est moi, par mes choix, qui me suis mis dans cette situation-là.
D'accord, okay, je comprends. Intéressant.
Donc, c'est une bonne
approche. C'est ça. Merci effectivement, ma chère Madigan. Moi, je l'avoue, j'avais regardé sur Internet pour voir un petit peu de quoi ça parle, parce que j'ai vu ce mot-là souvent dans les bulletins de mes enfants.
Mm-hmm.
Et en fait, sur Internet, ils définissent l'autorégulation chez les enfants comme un processus dynamique par lequel la personne planifie, bon là, l'enfant, entre guillemets, surveille et évalue ses apprentissages. En fait, si on regarde même du côté des chercheurs, c'est un peu plus théorique ça, mais ça peut aider, ils reconnaissent à ce processus une valeur prédictive du rendement scolaire. Donc là, c'est Monsieur Butler qui est un professeur dans l'université qui a mis ça en place. Donc des études en fait révèlent que les personnes qui ont des troubles d'apprentissage, et on va en parler dans l'émission aussi, ont une faible capacité d'autorégulation comparativement à ceux qui n'ont pas des troubles d'apprentissage. On va revenir encore sur la définition de ces troubles. Mm-hmm. Et la raison pourrait être qu'elles ne possèdent pas les habiletés nécessaires, ou ignorent qu'elles possèdent ces habiletés, ou ignorent quand et comment les utiliser, ou manquent d'assurance dans l'exécution. Vu l'importance de l'autorégulation dans l'apprentissage pour les théoriciens et l'initiative récente du ministère de l'Éducation de l'Ontario pour inclure l'autorégulation dans ces documents de politique, il est important en fait de cerner les éléments qui contribuent à une autorégulation efficace de l'apprentissage. Donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, ça fait partie du cursus scolaire, de la façon d'enseigner. Mais suivant l'enseignant, ce processus est différent, j'imagine, dans la salle de classe.
Oui, et ce qui est surtout important pour que l'enfant puisse s'autoréguler, c'est de savoir, d'également lui faire une rétroaction. Parce que des fois, il ne sait pas quelle a été son attitude qui ne fonctionne pas, en fait, pour lui. D'accord. Donc, l'autorégulation et la rétroaction est très importante. Donc, en fonction d'une tâche d'apprentissage, on doit toujours faire un retour. Ça peut être une rétroaction par les pairs ou par l'enseignant. D'accord. On peut dire, bah, écoute, on a tous entendu, on a vu que lors de ta présentation, le débit, l'intonation de la voix n'était pas présente, ou ta posture, ta gestuelle. Donc, on t'encourage à travailler ce point-là pour ta prochaine présentation orale. Donc, on a besoin d'une rétroaction pour être capable de s'autoréguler, parce que quelqu'un ou un enfant, ou même une personne qui ne sait pas, en fait, qu'il a un défi, sur quoi travailler, comment il peut l'améliorer s'il n'en a pas conscience. Ouais. Donc, c'est ça, il faut toujours...
Et ces règles de vie dans la classe, c'est toi, l'enseignante, qui a décidé de les placer comme ça. Ben en fait, si on est avec une autre enseignante, il y aurait peut-être d'autres règles de vie ou d'autres façons de s'autoréguler, entre guillemets.
Oui, en fait, les règles de vie de classe, et on les bâtit au début de l'année avec l'ensemble de la classe. Donc, c'est une règle d'or. Et ensuite, tout ce qui est les habiletés de travail, c'est vraiment les achats achetés. Donc, ce sont les mêmes pour tous. Mais
c'est vrai. Tu peux dire achats achetés,
c'est quoi? Les habiletés de travail, les aptitudes de travail, d'apprentissage de travail. Donc, c'est ça, les achats achetés. Okay. Et donc, là, tu vas avoir, par exemple, donc ça rentre l'autorégulation, la fiabilité, l'autonomie, la collaboration. Donc c'est vraiment des points à développer chez l'enfant. Mais vraiment l'autorégulation, c'est vraiment le point central, vu que c'est lui en fait.
D'accord.
Okay. C'est lui qui doit apprendre à se connaître lui-même et dire que je sais comment je fonctionne et voici qu'est-ce que je dois faire pour passer à une prochaine étape pour m'améliorer.
Ouais.
Sans qu'on soit constamment obligé de lui dire « Oui, je pense que tu dois faire ceci, cela. » Il doit en être conscient. Et du moment qu'il est conscient, c'est plus facile pour l'apprentissage. Et également, quand on va lui dire « Bon, écoute, je pense qu'il l'accepte plus, vu qu'il en a conscience également. » Et quand on lui fait la remarque, systématiquement, dans le but de qu'il s'améliore, en fait.
D'accord, OK.
Et on lui dira toujours « C'est une question de choix. Voici qu'est-ce qu'on te propose pour t'améliorer en fonction de qu'est-ce qu'on a, qui tu es. » Voici qu'est-ce qu'on te suggère, moi l'enseignante ou tes amis, tes pairs. Donc c'est juste un constat et qu'est-ce que tu en fais
excellent,
avec ce constat.
Excellent. Je pense qu'on va passer une bonne émission. Ça m'a l'air. T'as l'air passionné Non mais t'as l'air d'être passionné par ce thème-là.
Par l'autorégulation.
Non mais c'est vrai, c'est règle de vie, tout ça, c'est important. Puis je pense que même en entreprise, les adultes devraient avoir ce genre de processus.
Mais oui.
Parce que il y a des adultes encore en réunion ou même quand on travaille dans un espace ouvert, il y a l'autorégulation qui se passe pas. Puis il peut y avoir de la discipline entre guillemets négative ou des reproches ou des punitions entre guillemets. Je sais pas comment on peut ça, mais en entreprise, parce que il y a peut-être pas eu ça d'abord en salle de classe et voilà.
Et comme je dis, moi le point le plus important pour moi c'est vraiment la rétroaction.
Ouais, c'est ça.
Et bien le prendre. Là, c'est des enfants, mais comme tu dis à l'âge adulte, si jamais monsieur le directeur ou monsieur ton collègue vient te dire une rétroaction, par exemple, ah oui, une rétroaction c'est toujours positif. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné aujourd'hui, mais la rétroaction doit t'aider dans le but de t'améliorer. Donc c'est comment tu prends la critique positive.
D'accord.
Et c'est vrai qu'il y a des fois à l'âge adulte, les adultes ont du mal à accepter ça. Mais ça c'est l'ego en fait.
Exactement.
Ils pensent qu'on les juge, qu'on les attaque, tandis que non, c'est vraiment pour ça. Donc ça devrait être dans le sens de s'améliorer. pour que la dynamique du groupe soit mieux et puis la qualité du travail également.
Et c'est bon d'apprendre ça à l'enfant
des choses au moins, de l'âge, comme ça il est opérationnel.
Il a des réflexes entre guillemets de ça après. Excellent. Bah, on va prendre une petite pause musicale, ma chère Madjigaine, pour s'autoréguler tranquillement avant de revenir. Puis on va un petit peu parler de plus en détail de autorégulation et en deuxième partie des troubles d'apprentissage. À tout à l'heure.
À tout de suite.
De Mississauga à Ajax, en passant par New Market, vous écoutez Choc FM 105.1.
Il peut parler de tout, mais parle peu de lui. Les vrais rockers n'ont jamais eu de micro. Dans son lecteur CD, il n'y en a pas vieilli. Connaît les blues qui riment avec partir. Rouler vers le nord et silence infini. La forêt tout autour, un siècle s'est écoulé. Rouler vers le nord quand tout est endormi. Se retrouver tout seul, c'est le prix à payer. Tout ce temps à rouler. Tout ce temps, quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, il peut refaire le monde sous le ciel étoilé. Rouler la nuit, la musique veille sur lui. Il connaît par cœur les saisons d'illusion, le succès qui rend fou, qui se moque de tout. Le tourbillon, le temps d'une chanson, les feux et le néon brûlant les papillons. La scène garde pour elle ses ombres et ses mystères. Chacun son rituel dans un trait de lumière. Il emporte avec lui jusqu'au dernier appel. C'est l'hymne à l'amour des légendes immortelles. Tout ce temps à rouler. Tout ce temps, quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, les corbeaux se répandent jusque dans ses pensées. La nuit, la musique veille sur lui.
C'est minute avant le show, c'est lui qui donne le cue. Tout le monde dans le même bateau, devant, derrière le follow. Il emporte avec lui la mémoire des ruelles. C'est une chanson rebelle qui ressemble à sa vie.
Tout ce temps va rouler. Tout ce temps, quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, il peut refaire le monde sous le ciel étoilé. Il peut rouler la nuit. Musique veille sur lui.
retour dans la cour des grands, l'émission pour les parents, mais pas que pour les parents, sur Choc FM 105.1. Et ce soir, on aborde le thème de l'autorégulation chez les enfants, si vous venez juste d'arriver dans l'émission. Et on en a déjà parlé un petit peu avec Madjigen en salle de classe par rapport aux enfants. Et en fait, il ne se passe pas une journée sans que notre capacité de raisonnement ou nos émotions soient mises au défi. Quel que soit le milieu dans lequel on évolue ou la tâche à accomplir, certains facteurs viennent menacer notre équilibre ou nous détourner notre attention et nous faire perdre la direction dans laquelle on doit aller. Ces éléments perturbateurs tentent de nous déconcerter, de nous démotiver, voire de nous sortir de nos gonds. Et les situations auxquelles on doit faire face, même chez les enfants d'ailleurs, sont diverses et variées, allant du simple caprice d'un enfant au beau milieu de l'épicerie, à l'annonce d'une maladie grave ou la prise d'une décision rationnelle quant au traitement à suivre. Donc, comment réagir par rapport à ça? On a effectivement Madjigen qui est avec nous, qui est une enseignante et qui travaille ça dans la salle de classe, oui. Mais qui peut vous donner effectivement quelques conseils, quelques règles à mettre en place. Comprendre l'autorégulation et l'encourager chez un enfant est une importance capitale, on en a parlé au début, ça lui permet de devenir autonome, d'avoir confiance en lui et de réussir en fait. Et un adulte qui a été élevé ou éduqué à l'école avec de l'autorégulation et à la maison, si ça peut se faire, c'est vraiment vraiment exceptionnel. Pendant la pause avec
ça deviendra un citoyen conscient.
Exactement.
Et ses choix dans ses actions aura des répercussions. De toute façon, tout choix et action de chaque individu ont des répercussions sur le monde. Mais un citoyen conscient et donc c'est une société consciente.
Tout à fait. Et plus tu vieillis, plus tu rentres dans cette autorégulation, plus c'est difficile, en fait. Plus tard, tu y rentres. Donc, c'est mieux
d'y arriver. C'est plus facile de façonner un esprit qui est encore
façonnable. Ouais, tout à fait, c'est ça.
Qu'un adulte qui s'est déjà forgé comme sa propre perception. Ouais. C'est les perceptions, en fait, qui sont difficiles. Mais c'est pas impossible. Le changement, c'est un choix.
Mais tu me parlais d'une chose assez intéressante pendant la pause, que d'une sorte d'autorégulation, c'était la méditation.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on voit l'autorégulation comme quelque chose de très
rébarbatif ou disciplinaire.
Donc, des actions, fait le bon choix. Mais également, avant même que ça se répercute à l'extérieur, être centré sur soi, ses pensées, ses actions et ses paroles, la méditation nous ramène vraiment sur le pourquoi et le nous, en fait, et le nous-même.
Oui.
Donc, on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On fait le micro pour aller vers le macro. Et la méditation, c'est exactement ça. Quand on fait le scan de soi, le scan de ses pensées, de ses actions et de son agir de la journée, par exemple, on peut savoir, aujourd'hui, voici ce qui m'est arrivé. Et on prend conscience que c'est moi le maître de tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui en découle.
Oui, c'est ça.
Autant le positif que le négatif, j'ai ma part à l'intérieur, je ne subis pas, je ne suis pas une victime, c'est parce que j'ai agi de cette manière-là. Autant l'autorégulation, c'est pareil. Chaque situation, je dois agir et prendre le choix.
Même si c'est plus facile de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre.
Oui.
C'est ça ce qu'on dit en fait.
Toujours.
Alors que effectivement, si
on regarde vraiment, tu fais ton scan, vraiment, tu vas voir qu'au début, 50% c'est ta faute et tu vas te rendre compte que c'est 100% de ma faute.
Ouais.
Soit j'ai donné mon accord pour me trouver dans cette telle situation, comme les élèves vont te dire non, mais c'est lui, il m'a obligé, on n'oblige pas quelqu'un. Tu as consenti. Et tu as accepté d'agir de même.
Exactement.
En sachant que ce n'était pas un bon comportement. Donc, tu as fait le choix. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves dans la même situation que la personne, soi-disant, que tu as dit qu'elle t'a dit de faire.
Ah ouais.
Donc, on choisit. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau.
Tout à fait.
Ce ne sont que des choix.
Ouais, exactement.
Dans l'autorégulation, c'est ça, on t'apprend à faire les bons choix pour toi, pour t'améliorer.
Et ce qui est intéressant, c'est que, et je vais t'avouer quelque chose, je comprends tout à fait ce que tu me dis.
Mm-hmm.
Je suis arrivé à un âge où je ne me suis jamais, j'ai jamais eu l'occasion ou jamais eu la chance de connaître les processus d'autorégulation.
Mm-hmm.
Je commence à essayer de faire un peu de méditation pour m'aider.
Mm-hmm.
D'ailleurs, j'ai vu, faire une petite parenthèse, une vidéo qui était faite par TFO récemment dans une école élémentaire où il y avait des troubles de comportement dans toute l'école, et ils ont mis en place à la fin de chaque récréation une séance de 5 minutes de méditation pour toute l'école. Donc sur le haut-parleur, les enfants savent, c'est l'heure de la méditation quand on rentre, et ils se placent dans la salle pour bien se concentrer, et puis ils écoutent la voix qui parle et qui est enregistrée en fait sur le haut-parleur et qui leur permet de se recentrer. Et j'ai jamais eu ça, moi. Et en fait, c'est très difficile de le faire à mon âge. et de comprendre l'intérêt et de comprendre. C'est un petit peu comme si tu me dis, tiens, ben, va apprendre la guitare, mm-hmm. puis tu vas devenir un musicien et tu vas devenir. Mais quand je vais prendre ma guitare, je vais pas avoir réussi à faire un do et un mi, mm-hmm. Et je vais me décourager parce que voilà, parce que.
Maintenant, ta conscience, ça prend peut-être du temps et que
ouais,
tu te dis.
Mais
que...
j'en ai conscience. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un chemin aussi à faire entre je comprends ce que tu me dis mm-hmm. et le faire. Mm-hmm. Il y a ce chemin-là qui est très difficile et qui effectivement expliquer à un parent que pour son enfant bah, c'est le bon moment pour le faire mm-hmm. et qu'il aura plus de facilité d'y aller vers ce chemin-là et de comprendre mm-hmm. quand un enseignant lui...
Mais tu as tout à fait raison. Je pense que quelque chose est vrai du moment qu'on l'a expérimenté.
Oui.
Donc que ce soit un enfant ou un adulte, du moment que le parent ne l'a pas expérimenté, il aura de la difficulté à le comprendre. Il faudrait même faire des sessions de méditation pour les adultes également.
Ouais, exactement. Alors, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. Quand on voit effectivement sur un bulletin scolaire, mm-hmm. L'enfant a des problèmes d'autorégulation, mm-hmm. est-ce que ça vient 100% de l'enfant ou ça peut venir aussi de la façon dont l'enseignant a mis en place sa classe? Est-ce qu'il y a... et sans mettre de victime, en fait. Mm-hmm. Je veux dire, qu'est-ce qui fait quand tu mets des règles de vie d'une classe comme tu le fais, mm-hmm. qu'est-ce qui fait qu'un enfant aura quand même des problèmes d'autorégulation? Est-ce que c'est des trous d'apprentissage dont on va parler plus tard ou qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, l'enfant qui a des fois des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, il a du mal à gérer ses émotions. Et en fait, il faut l'encadrer plus.
D'accord, ok.
Il a besoin de plus d'encadrement qu'un enfant, on va dire, qui a déjà acquis ça au niveau de son développement. Donc, dans toutes ces réactions, dans toutes ces, même les moments de la journée, il faut l'encadrer. Comme moi, j'avais un élève qui n'arrivait pas à gérer ses émotions et tout était excessif, que ce soit la joie, la colère. Donc, il fallait d'abord mettre des mots à ses actions et qu'il les comprenne, qu'il les visualise. Et après, je lui dis, bon, quand tu te trouves dans ce genre de situation, là, il sait quand est-ce qu'il se trouve, comment il se sent, qu'est-ce que je fais pour revenir à me centrer au calme. Donc, voici tes options. Bon, par exemple, c'est s'isoler, aller au coin de lecture, prendre un livre. Comme il était kinesthésique, il aimait prendre des balles en mousse et des objets comme des figures planes en mousse. Ou bien, il aimait juste rester assis en retrait un peu sur la chaise et suivre la leçon à sa place. Donc, on avait choisi comme on avait un peu, comme on trouvait toutes les stratégies qu'il peut utiliser de manière autonome.
Ok.
Donc là, des fois, quand je le vois, il se lève, il va prendre ses balles en mousse, il se calme comme ça. Donc, j'avais plus besoin de faire de...
Et il a même pas besoin de te prévenir qu'il va faire ça. D'accord.
Okay. De lui-même, il se lève et je sais qu'est-ce que ça signifie.
Alors, question plus pour moi ou mm-hmm. pour les auditeurs qui nous écoutent. Comment tu apprends un enfant à s'attraper quand il est dans une mauvaise situation, entre guillemets? Et je dis mauvaise, c'est pas forcément mauvaise.
Ça,
parce que s'il a une excessivité de colère ou une excessivité de joie tout d'un coup, mm-hmm. Comment il va dire, oh, ok, c'est là, je me rends compte que je suis comme ça, j'ai conscience de ce que je suis, je vais chercher mm-hmm. une balle.
Ça se travaille beaucoup parce que déjà tu les observes au début de l'année, tu fais ton profil de classe, tu les observes comme ouais. Et là c'est vraiment comme tu regardes leur comportement, c'est les premiers bulletins de progrès. Donc après tu dis bon, voici ce cas-là, comment je peux faire pour l'aider? Et justement on doit développer l'autonomie des élèves. Et là c'est vrai que c'est un peu plus particulier parce que c'est vraiment comme au niveau de la sensation. Donc, toi, tu vas comprendre qu'est-ce qui déclenche ce genre de comportement. Et après, tu vas passer vraiment par la parole et l'écoute. C'est beaucoup, tu vas l'écouter, voir pourquoi il réagit de cette manière-là. Tu vas lui faire parler, en fait.
D'accord, ok.
Et avec lui, tu vas trouver des stratégies. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, qui t'amènerait à te calmer en fonction aussi de ses intérêts? Donc, tout ça, tu bâtis ça déjà en l'observant. Une fois que tu as observé, tu as trouvé ses points forts, ses défis. Après, tu peux lui proposer des stratégies qui étaient sûres qu'il... C'est pas que t'es sûr, mais tu peux lui proposer tout le temps des stratégies. Okay. Comme par exemple, il y avait un moment où on voulait lui proposer une chaise avec un ballon.
Oui, pour que ce soit une chaise.
Ouais, oui. Mais là, on s'est rendu compte que non, c'était un jeu pour lui. Après, on lui proposait comme des balles mousse au tapis. Là, il dit non, il voulait pas parce qu'il voulait pas être un peu stigmatisé, quelqu'un qui avait besoin d'une.
Ouais,
là, après, là, c'était jouer avec des blocs en mousse et des solides. Là, il aimait bien. Donc, en fait, il fallait aller vraiment par élimination.
Par étapes, d'accord, ok.
Donc, jusqu'à ce qu'il prenne lui-même un rythme et s'auto-réguler lui-même. Donc, en fait, on l'aide dans cette démarche-là parce qu'il n'est pas capable de le faire seul.
Ouais. Mais
chaque élève est différent.
Et peut-être que je parle de moi, là, et c'est pour ça que je te demandais la question, mais peut-être les auditeurs ont la même sensation, mais dès qu'on se trouve dans une situation d'anxiété, ou une situation encore de stress peut-être plus élevée que d'habitude, que ce soit au travail, à la maison, ou quand on monte sur scène, par exemple, c'est mon cas à moi, je sais que je vais me donner, pas des défis, mais des choses et des tuyaux en disant... Pour me concentrer, pour parler plus doucement sur scène, pour me dire, tiens, respire... Mais dès que j'arrive sur scène, par exemple, ou dès que j'arrive dans une situation de stress, tous ces conseils que je me suis donné avant, ça disparaît. Et peut-être parce que j'arrive à un âge où j'ai pas encore mis ce processus en place pour que mentalement, je garde ça encore et je m'attrape au moment d'arriver sur scène.
Là, souvent, on leur dit respire.
Oui.
Respire, c'est tout le temps l'élément.
Mais il faudrait que quelqu'un
ramène à la réalité.
Il faudrait que quelqu'un soit avec moi au moment du stress et me dire respire, c'est oui, c'est vrai. Ok, je vais respirer.
Mais moi, ce que je fais, c'est quand ils sont dans cet état-là.
Oui.
Et généralement, des fois, ça va générer tout le groupe. Ils vont un peu absorber des fois. Donc, j'arrête tout. Je ne peux pas continuer d'enseigner. Je ne peux pas aller à une autre étape. Donc, c'est là où je vais mettre mes transitions en méditation. Alors, faites la grenouille au tapis. Je mets une musique douce. Des fois, je m'assois avec eux. Là, je peux faire une guidée avec ma voix.
D'accord,
là, tu respires. Et là, je fais exprès de respirer comme intentionnellement.
Ouais, très fort.
Et je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Ouais. Donc, ils vont faire le... Donc là, et puis pendant un petit 5 minutes, une transition. Et puis là, on va avec quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est le même système que cette école-là. Parce que c'est vrai, c'est pendant les transitions ou les retours de récréation.
Qui sont plus
excitants. Où là, oui, il faut le retour au calme et les préparer au travail. Donc, moi, généralement, quand je connais, parce qu'ils sont encore jeunes pour en être conscients, mais on les observe, on sait quand est-ce que leur comportement change. Et je sais que j'observe de la joie. C'est pas parce qu'il est, il est trop excité, il ne peut pas se calmer. Mais là, je dis, je comprends, tu es joyeux, mais calmons-nous, on revient. Donc, tu essayes de ta voix, de l'apaiser, en fait. Et réguler un peu son rythme cardiaque.
Et puis que ce soit quelque chose de systématique, entre guillemets, à chaque retour de transition, ils savent qu'ils doivent faire la grenouille et de respirer fort, entre guillemets, sur le tapis. Mais par exemple, un adulte qui se trouve dans un embouteillage depuis 2 heures, il n'en peut plus, et qui commence à péter des plombs, et là, il aurait besoin d'autorégulation plutôt que de faire du road rage, comme on dit, ou tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, il n'avance pas assez vite » et qui commence... Et là, c'est encore une situation de stress où les gens
devraient dire... Mais là, ça va aller plus dans la méditation que l'autorégulation.
Mais ça peut être aussi peut-être un processus en disant comment les gens peuvent s'attraper à ce moment-là et dire... Peut-être faire de la méditation bien avant et travailler quand t'es pas en stress pour que quand t'arrives en stress...
Avec la méditation, tu te rends compte que chaque événement, chaque situation de stress ou chaque sensation ou sentiment sont des sensations et que tu le sens au niveau de ton corps. Comme par exemple, quand t'es en colère, tu vas sentir que ton...
Ouais.
T'as chaud, ton cœur bat plus vite et chaque émotion a une réaction physique et chimique. Donc quand tu t'écoutes bien, tu sens même tes pulsations, même ton... Tu le sens quand tu es en stress, tu le sens quand tu... que du stress quand tu aimes, tu le sens quand tu es heureux, tu le sens, t'as des réactions physiques. Donc c'est pour ça qu'il faut se centrer, se connaître. Et du moment où tu le sais, maintenant tu pourras te centrer et dire qu'une émotion, c'est juste une émotion, une sensation, c'est juste une sensation, qu'elle n'est pas permanente.
D'accord, tout à fait.
Donc du coup, tu vas essayer de te concentrer sur ton souffle en disant, bon, je suis dans les embouteillages, bon, c'est vrai que ça m'énerve, mais bon, dans une demi-heure, ça sera fini, ça sera oublié, et ça doit être oublié, c'est du passé, rester accroché sur cette sensation-là. Et le lâcher prise, c'est justement le laisser passer. Rester conscient dans le présent et juste respirer et dire que bon, ben, c'est vrai, c'est désagréable, mais on n'a pas le choix.
Donc pareil pour un enfant qui va se faire agresser, mais qui va être dans une situation où il va être frustré ou une situation qui va être embarrassé, lui dire c'est temporaire aussi et voilà, pense à ta journée peut être très très belle effectivement.
Et c'est quand on le comprend, il faut pas le nier, on comprend, donc là c'est les heures de pointe où on comprend cette situation est vraiment embarrassante. Peut-être pour toi c'est révoltant, c'est injuste, mais accepte la réalité telle qu'elle est.
Ouais.
Tu ne pourras pas la changer. Donc si tu luttes ou autre, tu vas te faire que du mal en fait, parce que tu ne pourras rien changer. Accepte comme c'est, respire, prends ton temps, dans 10 minutes ça sera oublié, même pas. En plus, la capacité des enfants à oublier, c'est tellement rapide.
Cette façon de respirer, il vaut mieux la pratiquer quand on n'a pas ces sensations d'anxiété ou de stress ou de frustration, pour que quand ça arrive, à ce moment-là, on peut s'attraper
technique. Moi, en tout cas, quand je l'ai appris, c'était guidé. Hein, parce que tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, ok, je vais méditer, je respire. Non, c'est vraiment guidé, c'est comme, vraiment comme même médical.
Tu peux trouver des vidéos sur YouTube aussi qui peuvent te guider.
Tu peux trouver des vidéos guidées. Tu peux également aller dans des centres de méditation.
Ouais.
Et il y a plein de centres, même ils proposent également pour les enfants. Et justement, ils font des séminaires pour des enfants pour le souffle qui s'appelle Anapana.
D'accord.
Et les réactions des enfants, ils le disent que je performe mieux à l'école. J'arrive plus à me concentrer. Il y a également les SGSJ, les problèmes de concentration. Ces enfants-là, ça leur aide énormément. Sa crise de panique, d'angoisse, donc là, ils reviennent au souffle et comprennent qu'en fait, oui, non, c'est juste une sensation, une émotion. Rester concentré. En fait, c'est juste de la panique, là, sur le moment.
Excellent.
Et de l'anxiété.
D'accord, ok. Merci beaucoup.
Oui, mais merci.
Non, c'est très bien. On arrive à la pause musicale, ma chère Madjigan. Et puis, donc, on va prendre une petite pause et se retrouver juste après où on va parler des troubles de l'apprentissage qui peuvent avoir aussi de l'impact sur l'autorégulation. À tout à l'heure.
À tout de suite.
Choc FM 105.1, 100% Toronto.
Fait bien du bien, moi et Madjigan, on a beaucoup parlé, et puis donc vous êtes toujours dans la cour des grands sur Choc FM 105.1, l'émission pour les enfants, mais pas que. Et ce soir, si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie, le thème c'est l'autorégulation chez les enfants, et on expliquait ça aussi en début de programme, que l'autorégulation peut être différente suivant les troubles de l'apprentissage. Encore un terme qu'on voit souvent, peut-être sur les bulletins ou dans le jargon des enseignants. Que ce soit l'autorégulation ou les trous d'apprentissage, on voudrait d'abord dire aux auditeurs que c'est, il n'y a rien de négatif par rapport à ces expressions-là. C'est vraiment une façon de différencier la façon dont chaque enfant apprend. Et ça permet aux professeurs, à l'enseignant et à l'enfant aussi de mieux se comprendre et de mieux se réaliser finalement. Et si on vous dit que votre enfant a des troubles d'apprentissage en lecture, en mathématiques ou en situation sociale par exemple, on va y revenir, c'est pas pour dire, tiens, on le pointe du doigt, c'est son problème et il faut qu'il l'améliore. C'est juste que, et Madjigan pourra vous expliquer ça mieux que moi, ça a été notifié ou remarqué par rapport à cet enfant-là et que il sait et qu'il faut qu'il le travaille et voilà. Et donc, est-ce que tu peux de façon générale, peut-être mieux expliquer que moi, qu'est-ce qu'on appelle un trouble d'apprentissage, Madjigan, et d'où ça vient, par exemple?
Alors, quand on arrive vraiment à poser le trouble d'apprentissage chez un enfant et que c'est dans son dossier, donc ça veut dire qu'on a fait également un PEI pour l'enfant.
PEI, c'est un plan?
Un plan d'enseignement
individualisé.
Donc c'est ça, on n'emploie pas ce terme-là à tout va. Là.
D'accord, oui.
Donc on a déjà diagnostiqué un enfant qui, ça y est, c'est écrit dans son bulletin. On va dire dans notre élève un PEI, par exemple, en lecture, quoi, en littératie.
D'accord.
Alors maintenant, on a vu en fonction de ses défis, quelles sont les stratégies qu'on va adapter pour lui en fonction de son trouble de l'apprentissage.
Ok.
Aussi, là encore, vraiment de problèmes de conscience phonologique, qui n'arrive pas à faire la fusion.
De conscience quoi?
Conscience phonologique.
Ah, ok, d'accord.
Au niveau des sons, des phonèmes. D'accord. S'il faut comprendre d'abord les phonèmes pour arriver au graphème, donc le lien entre les sons, la lecture et l'écriture.
Ouais.
Donc s'il a encore la base, donc la fusion des sons entre eux. Donc si c'est là son défi, donc on va travailler plus la conscience phonologique pour après aller vers les mots, la phrase, et puis la lecture, sur la fluidité. Donc trouble d'apprentissage, ça va être vraiment comme quand l'élève a été diagnostiqué, qu'on a mis en place un plan pour lui personnalisé, individualisé, et qu'on a des stratégies pour lui afin de l'amener à pallier tout son écart vis-à-vis de la norme provinciale.
Ouais, d'accord.
Donc, quand on dit un trouble de l'apprentissage, c'est juste pour mettre l'accent sur un peu plus de différenciation pédagogique, parce que c'est vrai qu'on en fait pour tous, indépendamment des habiletés, des aptitudes de travail, également des intelligences. Donc,
ouais.
Si quelqu'un est un peu plus visuel, kinesthésique, intra ou extra-personnel, ou... Donc, on se doit en tant qu'enseignant de diversifier nos méthodes et nos stratégies. Ne serait-ce qu'avec des centres d'apprentissage, on va toujours avoir un peu plus de manuel, un peu plus d'intégration de la technologie pour rejoindre le groupe, l'ensemble de nos élèves.
D'accord.
Et même à ça, il y aura quand même encore des élèves qui auront peut-être besoin d'être un peu plus encadrés et qu'on va peut-être mettre un peu plus l'accent et qui auront peut-être besoin d'un soutien particulier ou via leur pallier leurs troubles de l'apprentissage.
D'accord, ok. Question d'un parent que je suis, et qui n'a pas du tout d'éducation en éducation. Pour moi, troubles d'apprentissage, si j'entends ça, même si je suis dans le milieu de l'éducation moi aussi, mais pas du tout en classe, j'ai quand même une connotation négative en disant mon enfant a un problème, a un retard mental, entre guillemets, ou un trouble mental. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que ça peut venir de plusieurs différents de raisons? Qu'est-ce qui définit un trouble d'apprentissage par exemple?
C'est vrai que ça va être au niveau un peu cognitif également. Et le développement d'un enfant est vraiment différent. On peut pas les comparer. Surtout que comme moi au niveau de la conscience phonologique, c'est jusqu'à 8 ans.
D'accord.
Jusqu'à 8 ans, 0 à 8 ans, afin de vraiment se stabiliser avec ça et de vraiment faire des transferts d'apprentissage entre les sons vus en salle de classe et comment son cerveau et tout le processus.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut lui laisser du temps à l'enfant, on ne peut pas lui l'imposer. Comme je dirais à mes parents d'élèves, chaque début d'année, comme moi j'ai une première année, c'est là où tout commence.
Oui.
Vraiment la lecture, l'écriture. C'est pas en 2 mois qu'on va faire des Molières.
Non.
Et ne jamais comparer les enfants, parce qu'au niveau cognitif, ils ont des développements différents.
Différents. Mais c'est juste dû à leur façon, à leur être propre, entre guillemets. C'est-à-dire que...
Des fois, c'est juste dans la manière dont la transmission de l'information, comment il la traite.
D'accord, ok.
Donc, des fois, c'est juste des exercices à faire.
Ok.
De mémorisation à court terme. Donc, c'est vraiment petit.
Ok, mais c'est pas dû par exemple à leur perception des choses. Par exemple, est-ce qu'une personne manuelle ou une personne visuelle va avoir peut rencontrer des troubles d'apprentissage qui correspondent à leur façon de voir les choses. Est-ce qu'un visuel aura peut-être plus de troubles d'apprentissage en phonétique ou en cognitif? Est-ce qu'un kinesthésique
ça n'a rien à voir. D'accord, c'est vraiment au niveau cognitif quand il y a un trouble.
D'accord, ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux définir pour moi le mot cognitif exactement alors?
En fait, c'est dans la transmission de l'information.
D'accord, ok.
Au niveau vraiment comme le cerveau, comment il le reçoit.
Il le reçoit, d'accord.
Comment il le traite et comment il le comprend.
D'accord, ok.
Donc c'est vrai que là, c'est à l'âge où tout se forme encore.
D'accord. Mais donc, un enfant qui est en sixième année, qui a des troubles de l'apprentissage, c'est parce que ça n'a pas été traité ou vu plus tôt? Ou alors ça peut arriver aussi si un accident ou un trauma dans sa vie, est-ce que ça peut arriver?
Non, ça c'est comme, pareil, c'est au niveau cognitif et il faut qu'il rattrape. Également, par exemple, on va dire, il est en sixième année, il va avoir un PEI, trouble d'apprentissage au niveau de la lecture.
Oui.
Il va avoir peut-être la lecture, il n'aura pas développé toutes les stratégies de lecture, peut-être comme un enfant de troisième année. Tant qu'il n'a pas acquis toutes ces années-là, il ne pourra pas arriver jusqu'au niveau d'un sixième année. Et puis, c'est son rythme de développement cognitif.
Oui.
Ça,
d'accord.
C'est vraiment comme l'enfant. Là. Toutes les stratégies mises en place du groupe, du macro au micro, elles ont été mises en place. Micro, ça va être le plan individualisé pour lui.
Okay.
Après, c'est des êtres humains. C'est comment lui, au niveau cognitif, se développe et prend l'information. Des fois, on peut avoir des comme là, je vois mes élèves, entre le début de l'année et janvier, un grand développement. Il faut laisser reposer.
Bien sûr, surtout cette année. Ouais.
Donc, au début de l'année, les parents s'interrogent. Oui, non, là, il reste encore bloqué avec ceci, la lecture. Mais en 2 mois, il change énormément. Parce que le temps que l'information arrive, qu'il la comprenne, qu'on pratique régulièrement avec des stratégies de lecture, les 5 au quotidien, et tout de suite, une fois que c'est acquis, c'est lancé, là, il est autonome, il peut lire. Autant quelqu'un qui est encore bloqué avec les sons complexes, les wash, donc là, il faut tout le temps les revoir parce qu'il n'arrive pas encore à avoir les lettres amoureuses, comme je les appelle, ensemble, ça fait un son.
Et donc là, c'est pas par exemple un problème. Si quelqu'un qui est visuel et qui n'est pas auditif, est-ce que ça n'a rien à voir? Tu sais, je te disais tout ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'auditif va plus comprendre
ça? Comme par exemple, on peut se dire, on s'interroge, on peut décortiquer, faire des activités un peu plus différenciées, et puis là, on peut aller plus en profondeur pour
d'accord,
voir s'il y a un problème auditif.
Ouais.
Donc il n'entend pas le son,
ou
bien visuel. Peut-être il a besoin d'un problème de vue.
Ouais, vous voyez pas là, mais Madjigan me montre ses yeux pour me dire que c'est un problème de vue. Et me montre ses oreilles pour que c'est un problème.
Non, mais en effet, on travaille beaucoup à la gestuelle et le non-verbal pour expliquer aux enfants. Donc c'est ça. Donc peut-être c'est plus médical aussi. Donc on peut s'apercevoir qu'également c'était juste un problème de vue. Une fois qu'on a réglé le problème de vue, l'enfant lit et.
Ouais.
Plus fluidement. Ou si c'est auditif également, donc là on va aller avec le pédiatre faire des suivis. Donc c'est à partir de là qu'on va bâtir et exploiter toutes les possibilités pour voir si c'est un problème vraiment de trouble d'apprentissage et différencier les activités afin qu'il y ait plus de facilité dans la transmission de l'information ou bien si c'est médical, c'est autre. Donc s'il a besoin d'un soutien auditif, s'il a besoin de lunettes ou autre.
Ok, intéressant. Pendant que tu me parlais, j'ai regardé un petit peu mes notes aussi, parce que je t'ai demandé s'il y avait des relations entre la kinesthésie, le manuel, tout ça, et les notes qui disaient qui étaient super importantes et que moi, par exemple, je pensais que c'était l'inverse, mais ils sont formels, que les troubles, par exemple, d'apprentissage n'ont rien à voir avec les facteurs environnementaux. Donc, que ce soit des différences culturelles ou la situation socio-économique, même si de tels facteurs peuvent augmenter les impacts, entre guillemets, des troubles, ça n'a rien à voir, en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir ça, parce qu'on peut penser parfois que dans certaines catégories socio-économiques, il y aura plus de troubles que dans d'autres, alors que sinon, c'est juste l'enfant qui a des facultés cognitives, tu vois, j'apprends un nouveau mot, qui est comme ça. Mais ma question aussi de tout à l'heure, c'est que quand un enfant est diagnostiqué peut-être en sixième année pour un trouble, c'est qu'il n'a pas été diagnostiqué assez tôt, parce que ce trouble, il l'avait depuis longtemps, finalement, et il l'a depuis qu'il est né, entre guillemets, c'est ça?
Mais en fait, c'est un peu lent, le processus, comme par exemple...
Je dis pas que l'évaluation est mal faite ou que l'école a mal fait son travail.
Non, c'est lent
parfois,
dans le sens
par exemple, un enfant arrive d'un pays où il n'y a pas d'évaluation, où il n'y a pas de choses comme ça, il n'a pas ces facilités-là, il rentre en sixième année, et on lui dit, votre enfant, il a un trouble de... je sais pas, de lecture ou un trouble d'écriture. Mm-hmm. Ces troubles-là, il l'avait déjà il avait 6 ans. Mm-hmm. Et là, on le retrouve à 12 ans. Et puis finalement, s'il n'a pas eu la chance d'être évalué à ce moment-là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui arrive depuis l'enfance.
C'est quelque chose qui arrive, malheureusement, comme quand on a les élèves PANA qui viennent juste d'arriver de notre structure et notre
pays. Alors, élèves PANA, donc, c'est le programme d'accueil des nouveaux arrivants, pour expliquer.
Donc là, il faut comme les remettre à niveau. Et quand on dit PANA, ça peut être également des Français.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est...
Au niveau du vocabulaire également, comme on a des différentes façons de le français de l'employer, les mots également.
Oui.
Et donc oui, donc c'est vrai, il faut remettre tout le monde à niveau. Et également, c'est vrai qu'on peut avoir des enfants arrivés à la sixième année qui ont toujours des troubles d'apprentissage, ou bien c'est là où ça se révèle. Moi, comme là, j'ai une amie, ça s'est produit parce que son enfant était autiste, mais c'est un degré d'autisme où il réussissait tous les tests. Il était assez intelligent pour les cacher. Donc c'est après, c'est tard qu'on a vraiment vu que oui, il était autiste, qu'on allait plus en profondeur. Mais on avait fait les tests, on l'a comme... Il réussissait tout. Lui, elle connaissait son enfant en tant que parent, donc elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Ouais, bien sûr.
Donc des fois c'est très sensible et c'est très difficile de se rendre compte de faire un dossier, un suivi. Également, ça peut prendre du temps dans le sens où on va te dire qu'il faut laisser tant d'années avant de déclarer si oui ou non il y a vraiment un trouble d'apprentissage, comme par exemple la confiance phonologique, ça s'appelle jusqu'à l'âge de 8 ans.
D'accord, ok.
Donc, c'est vrai que son degré sera peut-être moins rapide qu'un autre élève, mais c'est son rythme à lui. Et une fois qu'il aura acquis tout ce cheminement-là, ça va aller très rapidement.
Mais le rythme cognitif, c'est pas un trou d'apprentissage alors?
Mais en fait, ça vient de là en fait. Tout est au niveau du cognitif.
Mais donc, je veux dire, pourquoi un enfant de première année ou deuxième année peut être identifié, alors qu'un enfant qui arrive en troisième année n'a pas encore été identifié parce que son trouble n'est pas aussi important que ce qu'on voit?
En fait, c'est du cas par cas. Là.
D'accord, ok.
Vraiment du cas par cas. Comme par exemple, si jamais toi, en tant qu'enseignant, tu penses que cet élève-là a un trouble, après tu peux le faire passer un test équipe école.
D'accord.
Et on va dire, ok, on va essayer ces stratégies-là, essayez-les pendant 4 mois, et si ça s'améliore, ça veut dire qu'on peut s'arrêter là, c'est juste différencier stratégie. Des fois, ça fonctionne.
D'accord.
Donc, ça fonctionne très bien, on passe à l'année d'après. L'année d'après, où on complexifie, c'est toujours les mêmes choses qu'on travaille, mais on va plus en profondeur.
D'accord.
Et là, on peut observer qu'il y a encore un écart qui se creuse, où on a découvert qu'il y a quelque chose un peu plus profond.
Okay.
On refait les mêmes stratégies, et puis là, peut-être c'est là où, arrivé en deuxième ou troisième ou quatrième année, qu'on va dire oui, peut-être que finalement, on a besoin vraiment de faire un PUI pour cet élève-là. Au début, on va aller avec tout ce qu'on peut, tout le matériel, on va aller avec l'ensemble de ressources, on va faire des équipes écoles pour voir si c'est au niveau juste la manière dont on l'enseigne, les stratégies, avant d'aller vraiment poser un cas, vraiment un dossier, une analyse et avec l'élève. Et même nous, on nous dit toujours qu'au début d'année, les premières années, on leur laisse vraiment le temps jusqu'à janvier, février, avant de s'alarmer, dire oh, peut-être il y a un petit retard avec la lecture. Parce que c'est encore au niveau du cognitif, ils sont encore en train de se développer. C'est comme très... ils peuvent changer du jour au lendemain. Comme moi, des élèves, en 2 semaines, même en 2 semaires...
Ils ont changé.
Oui, là, c'est comme il y a eu un déblocage. Et là, la lecture, tu les mots, et puis...
excellent. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont aussi des problèmes d'autorégulation, ces enfants qui ont des trous d'apprentissage, parce que ça peut les frustrer ou ça peut les stresser ou...
Comme moi, par exemple, j'en ai un, donc, pareil, trouble de la concentration, puis là, donc, il n'arrive pas trop à se concentrer pour lors des mini-leçons ou même pour faire de la lecture en groupe. Donc, ça se fait que quand ça va être le moment là que ça d'angoisse, donc, soit il va déranger ou soit il gèle. Donc, on va l'interroger, il va faire des crises d'angoisse, de panique.
D'accord, oui.
Parce qu'il sait que c'est trop pour lui. Donc, c'est pas une question qu'il ne sait pas.
Oui.
Une question que c'est trop d'émotions, ou il est trop gêné, ou il est trop embarrassé, que ça le... plus rien ne sort. Donc là, il faut lui apprendre à comment réagir devant un groupe. C'est pas grave si tu fais des erreurs, on est tous
c'est
là
ça.
Pour t'aider. Donc, en plus, on s'encourage entre nous, on a un petit « Allez, ça, c'est fantastique ». Donc, il aime qu'on l'encourage, et même si c'est un mot, c'est deux mots, c'est une phrase qu'il me dit, c'est quelque chose.
Quelque chose de bien.
Si tu n'essayes pas, tu ne vas pas aller à la deuxième étape. Donc, vraiment, avec lui, je modélise vraiment avec des enfants qui ont le même niveau. C'est comme ça que je travaille avec lui. C'est vraiment la confiance en soi.
Ouais.
Donc, je lui montre que tu n'es pas seul, et on est là pour t'aider. Du moment, donc, tu vas voir que son problème d'apprentissage vient aussi d'un problème d'habileté sociale et de la confiance en soi. Donc, c'était pas juste au niveau. Et si, pour moi, c'est comme 90%, c'est la confiance en lui.
Ouais.
Et de la peur de l'échec,
c'est
en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il va pas essayer ou il va. Donc, du moment qu'on aura réglé le psychologique, la confiance en soi, les habiletés sociales,
ouais.
Son apprentissage va aller à 300%.
C'est ça.
Donc des fois on pense que c'est l'inverse. On pense que quand il va réussir au niveau académique, sa confiance en soi va être développée, mais en fait pour certains c'est l'inverse. S'il n'a pas confiance en lui, c'est la raison pour laquelle.
D'accord, ok. Et moi j'ai beaucoup d'enseignants, beaucoup. Je veux dire, il y a quelques enseignants qui m'ont marqué dans ma vie parce que ils ont fait l'effort de me parler différemment de certaines matières, que ce soit en français ou en mathématiques, et j'ai dû peut-être attendre d'avoir 15 ans ou d'avoir peut-être 17 ans pour avoir des profs de mathématiques dont je me souviens, un prof de français dont je me souviens. Et quand je t'entends parler, j'aurais beaucoup aimé que tu sois mon enseignante en première année. Je voulais juste te dire. Non, c'est vrai.
Merci.
Non, je dis pas ça. C'est vrai. Je pense que les enfants doivent beaucoup se rappeler de toi et de dire Madjigen, c'était vraiment une super enseignante et j'ai passé un bon moment avec elle. Mais merci pour tous ces renseignements, Madjigen. C'est super intéressant.
Plaisir.
Je voulais juste aussi ajouter de pas associer troubles d'apprentissage et échec scolaire. Au contraire, comme on s'occupe de ces enfants et qu'on essaye de leur faire prendre conscience de ça et de les aider et les autoréguler. Les élèves qui ont des troubles d'apprentissage peuvent tout à fait réussir lorsque l'on leur enseigne certaines compétences, certaines stratégies compensatoires et certaines habiletés de défense de leurs droits lorsqu'ils font l'objet de certaines adaptations. Donc, ne pas s'alarmer, effectivement, au contraire, si on dit sur un bulletin ou on dit à un parent, ben voilà, votre enfant fait un plan d'enseignement.
Mais généralement, il ne sera pas alarmé parce qu'il y a toujours un suivi avec le parent.
Oui, bien sûr.
Il est au courant et même la manière comment on approche le parent ou autre, c'est vraiment point de vue positif.
Bien sûr, exactement.
Donc on va toujours dire voici le défi sur lequel on travaille, voici les stratégies qu'on vous suggère et ce qu'on met en place à l'école. Donc il y a c'est mis en place.
Et c'est un travail collaboratif entre l'école et les parents de la famille. Et, d'accord, excellent. Merci beaucoup, Madjigen. C'est super intéressant.
Serge.
C'est toujours bien de t'avoir dans cette émission. Merci d'être à notre écoute, à tous nos auditeurs ce soir. On vous retrouve donc la semaine prochaine, jeudi prochain à 19h, pour une émission avec peut-être de l'esprit créatif et voir comment effectivement on peut développer ça chez les enfants, avec une artiste qui va nous rejoindre. En attendant, vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, de nous réécouter en podcast ou en balado-diffusion sur le site de Choc FM. Ou aussi en rediffusion le dimanche à partir de 16h. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Salut Madjigen.
Bonne soirée. Au revoir.
L'émission est finie.
Les enfants sont couchés.
Je vous invite donc à rester à l'écoute sur Choc FM.
Quant à moi, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.